construit une, hein, pour être plus proche de Dieu, du Dieu, du ciel.
Pourquoi tu dis ça veut dire confusion?
Parce que le nom veut dire comme ça.
Tu viens de dire porte de Dieu.
Ah, oui, mais ça c'est l'étymologie populaire. La Bible prend toujours les étymologies populaires. Comme elle dit Noé, l'étymologie populaire, Nacham, ça sonne comme Nacham et on dit le consolateur, la consolation. Alors que grammaticalement, ça vient de Noir. Et ça veut dire le repos.
Ce qui est un peu n'est pas aussi une onomatopée, c'est-à-dire l'imitation d'un bruit qu'on fait quand on bredouille.
Bredouille, c'est Babylone. Oui, Babylone, oui. Oui. Dans nos langues, c'est comme ça, oui. Mais oui, mais ça veut dire. Le balbel en hébreu veut dire non seulement bredouiller, mais on ne sait pas ce qu'il raconte. C'est confus.
Comment
dit-il blabla ? Oui, blabla, ça c'est la même chose. Mais oui. Le balbel, ça s'utilise encore en hébreu moderne. Mais vous voyez, c'est une étymologie. Vous avez souvent des étymologies populaires dans la Bible, alors que l'étymologie, la véritable étymologie grammaticale, ben, de gens qui ne connaissaient pas la grammaire, est différente. Très très souvent. Pour ça qu'on dit toujours étymologie populaire ou étymologie savante. Mais le valvel, parce qu'il prononce le BV en hébreu, le valvel, je vais encore dire aujourd'hui, bredouiller. Car là, il confondit, et il explique hein, son nom, Babel, c'est-à-dire confusion, car là, il confondit le Seigneur, la lèvre ou la langue de toute la terre. Et de là, il les dispersa, le Seigneur, sur la face de toute la terre. Voilà le petit récit. Je prends encore tout le reste. Oui, je peux le prendre. Ceux-ci sont les engendrements de Sem. Sem était fils de 100 ans et il engendra Arpaxad, 2 ans après le déluge. Il vécut Sem après son engendrement d'Arpaxad 500 ans. Il engendra fils et filles. Arpaxad vécut 35 ans, il engendra Salah. Il vécut Arpaxad après son engendrement de Salah 403 ans, et il engendra fils et filles. Et Salah vécut 30 ans, il engendra Éver. Et il vécut Salah après son engendrement d'Éver 403 ans. Il engendra fils et filles. Et il vécut Éver 34 ans, il engendra Péleg. Et il vécut Péleg après son engendrement de... après son engendrement de Péleg 430 ans, il engendra fils et filles. Et il vécut Péleg 30 ans et il engendra Réhou. Et il vécut Péleg après son engendrement de Réhou 209 ans, il engendra fils et filles. Et il vécut Réhou 32 ans, il engendra Sarug. Et il vécut Réhou après son engendrement de Sarug 207 ans, il engendra fils et filles. Et il vécut Sarug 30 ans, il engendra Nahor. Et il vécut Sarug après son engendrement de Nahor 200 ans, et il engendra fils et filles, vous voyez que ça diminue. Hein. Et il vécut Nahor 29 ans, il engendra Terah. Et il vécut Nahor après son engendrement de Terah 119 ans, et il engendra fils et filles. Et il vécut Terah 70 ans, et il engendra Abraham, et Nahor, et Haran. Ceux-ci sont les engendrements de Terah. Terah engendra Abraham, et Nahor, et Haran. Et Haran engendra Lot. Et il mourut Haran à la face de Terah, son père, en la terre de son engendrement, à Ur des Chaldéens. Et il prit Abraham et Nahor pour eux des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Yiska. Et elle était Sarai, stérile. Il n'y avait pas d'enfant pour elle. Tous ces beaux engendrements qui se succèdent, toc, ça s'arrête. Stérilité. Et Sarai s'abrut. Et il prit Terah, Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, le fils de son fils. Et Sarai s'abrut, femme d'Abraham, son fils. Et ils sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens pour s'en aller vers la terre de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Haran, c'est-à-dire à peu près aux sources de l'Euphrate, hein, au nord de la Syrie, là, actuelle. Et ils habitèrent là. Et ils furent les jours de Terah, 250 ans. et il mourut Terach à Haran. Et donc, et nous nous trouvons maintenant sur le seuil de l'histoire d'Abraham. Mais on l'a introduit. De même qu'on avait introduit Noé à travers toute une série d'engendrements, on introduit Abraham à travers toute une suite d'engendrements. Encore un petit texte piégé, bien entendu. Hein? Qu'est-ce que ça peut nous avoir dit ?
Tu es contre les Nations Unies.
Voilà. Est-il contre l'Europe ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte ? On dit d'abord que Dieu disperse, et puis on dit que les gens veulent faire une sorte d'unité, veulent construire un signe, hein, un temple qui symbolise leur unité, et puis voilà que Dieu descend, et il envoie tout promener. Je reprends quand même Marc Sevin. J'aime bien la manière toute simple dont il raconte les choses. Dans les premiers temps de l'humanité, j'ai aussi deux gros bouquins bien compliqués sur l'histoire de Babel. Mais enfin, peut-être qu'on dira un mot demain. Dans les premiers temps de l'humanité, les habitants de la Terre décidèrent d'ouvrir un gigantesque chantier. Ils construiraient une ville immense. Vous voyez, ce qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que c'est que construire une ville ? Et c'est vrai que construire une ville, pour construire une ville, il faut qu'il y ait une certaine unité ressentie. Je vous disais que la ville est généralement déterminée par des remparts, protection contre l'ennemi. Et donc les remparts ont été construits par les membres de la communauté, donc il y a une unité de travail. Et aussi par un silo à grains, où l'on entrepose pour toute la communauté, on ne va pas construire 36 petits silos, mais un grand silo à grains où on vient donc mettre, engranger les moissons. Ils construiraient une ville immense où ils pourraient habiter et rester ensemble. En son centre, une tour énorme, imposante, irait gratter le ciel. Elle leur assurerait une publicité grandiose et permanente. N'est-ce pas un rêve merveilleux ? Rester ensemble et se comprendre grâce à un langage unique. Ce récit est bien connu, il se trouve au livre de la Genèse juste avant le départ de l'histoire sainte avec Abraham. Le Seigneur Dieu brise ce rêve. Hein ? C'est comme ça que le texte se lit. Il voit d'un mauvais œil, semble-t-il, ce projet d'unification des hommes en une seule ville, une seule langue. Il se met à brouiller les langues et disperse les hommes sur toute la surface de la terre. C'est drôle, hein ? Il a peur, comme ça que le texte semble le dire, que la puissance des hommes n'ait plus de limite. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Pourquoi une telle attitude ? De nouveau, il y a une énigme dans ce texte. Tout est bien quand même, hein ? Briquetons des briques et brûlons-le à brûler, construisons une belle tour. Surtout qu'on en a fait des quantités. Pourquoi une telle attitude ? Le Seigneur aurait-il peur pour lui ? Hein, de nouveau, hein, serait-il comme on pourrait le penser, serait-il jaloux ? Craint-il une concurrence possible ? Pourquoi les croyants de la Bible ont-ils éprouvé le besoin de reprendre cette légende et de l'insérer dans les récits concernant les commencements du monde ? Et juste à cet endroit-là, ils auraient peut-être pu passer tout de suite à Abraham. En réalité, et comme toujours, ils racontent leur propre histoire. Ils témoignent de leur foi. Ils racontent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Et maintenant, ils essaient de retrouver l'histoire à partir de laquelle un texte comme celui-ci a pu s'expliciter. Au cours de leur histoire, les fils d'Israël ont connu plusieurs déportations, dont le fameux exil à Babel, Babylone. Les déportés se souviennent de cette ville magnifique, qui était une des merveilles du monde, hein, les jardins de Babylone. Ils gardent dans leur mémoire les bâtiments et les temples immenses de leurs conquérants. Ils ont souffert du rêve fou de Babylone de leur imposer sa puissance, sa culture, son langage, sa religion. Bon, ils ont quand même un souvenir. C'est que le régime jusqu'ici, que ce soit les Assyriens ou les Babyloniens, ont toujours imposé tout cela. Le régime politique, la religion, la langue qu'il fallait parler, tous. Les Perses vont être les premiers à ne plus le faire. Et c'est en cela que le prophète Isaïe va voir dans Cyrus le serviteur de Dieu. Au lieu d'agir avec puissance et domination, au contraire, il laisse l'autonomie aux pays qui sont conquis. Mais ici, ils ont effectivement souffert de ce régime totalitaire. Ah, voilà. Hein? Ce qu'il y a derrière cette unité. Nous pouvons prendre cette unité, nous aujourd'hui, hein, comme les Nations Unies, ou bien comme un régime totalitaire qui va s'imposer à tous. Il leur a fallu résister à l'embrigadement et à l'impérialisme babylonien. Ils racontent leur foi. Dieu n'a aucunement peur pour lui, mais il a peur pour les hommes. Et la peur que les gens ont, il la plaque sur Dieu, il la projette sur Dieu. Lorsqu'un peuple est puissant au point d'imposer sa volonté, sa langue, sa culture sur les autres, c'est la catastrophe. Les particularités ne peuvent plus s'exprimer. Or, il vient justement de nous marquer les particularités des gens. Sem, Cam, Japhet, chacun va dans son côté, chacun a sa spécialité. Et maintenant, on veut tout ramener sous un chef. Ça, c'est l'entreprise impérialiste. L'intolérance devient reine avec son cortège de persécutions, de chasse aux sorcières, d'exécutions. La légende de la tour de Babel devient une mise en garde contre toutes les tentatives d'uniformité, de laminage des différences. La diversité des peuples et des cultures fait la richesse de l'humanité aux yeux de Dieu. Elle garantit la liberté de tous. Sinon, on arrive à avoir des robots, des gens qui pensent exactement tous de la même manière. Hein, entreprise totalitaire. Du temps de, je me rappelle bien, du temps de Nasser, par exemple, en Égypte, tous les jours, matin et après-midi, pendant une heure et demie ou deux heures, on vous retransmettait des discours de Nasser. Il ne fallait pas s'étonner que les gens pensent comme Nasser. Ils connaissaient cette manière de s'exprimer par cœur, ils en connaissaient des phrases entières. Propagande. On connaît d'autres exemples. Enfin, vous voyez, la propagande. Et on sent qu'il y a cette idée là derrière. Juste avant l'histoire sainte, l'histoire de Babel est un avertissement que le peuple des croyants au Dieu d'Abraham n'ait jamais la tentation de vouloir se faire un nom et d'imposer sa puissance aux autres nations. Qu'il respecte toujours la diversité et rejette l'uniformité. Il faut bien vous dire ceci. C'est que quand vous voyez Abraham venir d'Ur en Chaldée et remonter l'Euphrate, ces tribus-là entre 1850 et 1550 avant Jésus-Christ, c'est à peu près hein, les dates, la fourchette dans laquelle il faut placer ces nomades qui sont remontés. Quand ils remontent, qu'est-ce qu'ils découvrent sur son passage ? De petits royaumes. De petits royaumes ayant souvent chacun leur langue particulière. Ils dérivent soit du sumérien, soit de différents dialectes sémites. Ils rencontrent des petits royaumes ayant leur entité propre, et on découvre encore aujourd'hui, leur façon de construire propre. On voit que même si on s'inspire d'un modèle qui vient de Uruk, par exemple, À Aymar, on construit différemment. Il y a des choses que vous retrouvez partout. Partout, vous retrouvez au centre de la ville ou du village, vous trouvez le temple. Le temple est vraiment comme le cœur de la société. Mais il a trouvé partout des petites entités, et ces petites entités ont quelque chose à leur niveau de parfait. Or, entreprise de mettre tout en œuvre. La tentation du totalitarisme, la tentation de Babel, guette tout groupe humain. La peur de la différence, de l'étranger, le repliement sur des groupes chaleureux et uniformes en sont autant de signes. Notre Église elle-même n'en est pas à l'abri. En son sein, les différences sont une richesse à cultiver. La catholicité, c'est-à-dire l'universalité, n'est pas l'uniformité. Faut-il revenir au latin, langue uniforme. On savait partout comment on allait célébrer l'Eucharistie. Maintenant, on ne le sait plus. À la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, les gens présents venant de toutes les parties du monde, et vous comprenez bien que dans les Actes des Apôtres, quand on vous refait la géographie du pays, on a en tête la géographie d'ici, celle qui vient juste de précéder au chapitre 10. Et ils venaient tous de les Mèdes, les Perses, etc. Je vais leur prendre d'ailleurs tout de suite. À la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, les gens présents, venant de toutes les parties du monde, entendaient, attention, dans leur propre langue, parler des merveilles de Dieu. Il y a une réalité unique dans des langues différentes. Ici, on veut tout réduire à une seule langue. Je dis réduire parce qu'il y a une richesse dans ces langues différentes, dans ces variétés. Donc, entendez dans leur propre langue parler des merveilles de Dieu par la venue de l'Esprit Saint. Les difficultés sont surmontées et le but de Dieu est atteint. L'unité, est possible dans une diversité respectée. Et nous retrouvons la même leçon qu'avec Adam et Ève. Différents, et en chacun leur entité, et en chacun leur différence, mais capables de communion. L'unité est possible dans une diversité respectée, voilà l'anti-Babylone. C'est ça qu'on dit à tour de Babel. Babylone, c'est important, évidemment. Qu'est-ce que cela signifie dans la tête? Voilà l'anti-Babylone que l'esprit nous aide à construire. La tour de Babel, une tour infernale à détruire partout où elle repousse. Et alors, il met en plus Babel une mise en garde contre toutes les formes de fanatisme et d'intolérance. Donc voilà un petit peu ce qui est dans ce texte.
Donc ça date de l'exil.
Ah oui. C'est encore un des textes qui date de l'exil. Mais voyez, c'est, au fond, on pourrait l'appeler la légende du totalitarisme. Une réflexion sur le totalitarisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il dit les choses. Toute la terre était... on comprend, ils parlaient tous la langue d'Adam, je ne sais pas laquelle, mais ça m'est... Toute la terre était lèvre unique et paroles uniques. Donc, il y a une sorte d'uniformité dans l'origine. Et de cette uniformité, on va petit à petit aller vers une multiplicité et vers un enrichissement. Et ces enrichissements vont être marqués notamment, il le dit, par les villes, les constructions des villes, les endroits où l'on habite. Une cité en bordure du désert n'est pas une cité au bord d'un fleuve, etc. Tout, la géographie, les produits du sol vont influencés d'une manière ou d'une autre, tous ces peuples. Et il arriva dans leur voyage depuis l'Orient, ils trouvèrent une vallée dans la terre de Shinar, et ils habitèrent là. Et ils dirent, un homme à son prochain, donc l'un à l'autre, allons, briquetons des briques et brûlons-les à la brûlée. Donc c'est un travail matériel. C'est à partir de briques. Là aussi, ils travaillent à partir du limon, de la terre, du terrestre. Les briques sont faites avec de la terre et de l'eau, exactement comme l'homme. Donc, essayons de mettre notre empreinte dans ce que nous construisons et brûlons-les à la brûlée. Et fut pour eux la brique comme de la pierre. Dans certaines régions, on construit d'abord en pierre, parce que la pierre est là. Dans les régions où la pierre n'est pas là, hein, où il n'y a que de l'argile, de la terre, on construit en briques. Allons construire, par exemple, la ville des Blas, hein, la ville des Blas, où il n'y a pas du tout de pierre à cet endroit-là. La ville des Blas se situe sur... elle a été découverte il n'y a pas tellement longtemps, vers les années 60, 65. Toute une ville, tout un royaume, avec un grand palais royal et une immense collection, je sais, 6 ou 7 000 tablettes qui ont été recuites. C'est comme ça d'ailleurs qu'elles ont été conservées. Elles ont été recuites dans l'incendie du palais. Elles sont solides, vraiment comme de la pierre. Elles ont été très peu endommagées, celles-là. Ébla, oui, Ébla qui se trouve sur l'Euphrate, entre Marie et Émar. Marie étant aujourd'hui à la frontière de l'Irak, hein, mais ça, ça a été découvert plus tôt, ça a été découvert dans les années 25-30, surtout par André Parot. Et alors quand vous montez plus haut, Émar maintenant est sous eau, parce qu'on a construit le barrage de Hafez el-Assad dans la région. Et Émar était le lieu où remontaient, en remontant l'Euphrate, où remontaient les bateaux. Et c'était le port, hein, le port où l'on débarquait tout ce qui venait du sud vers le nord.
On a trouvé en même temps ça.
Pardon ?
En même temps, cette tablette-là, il y avait une traduction.
Oui, oui.
Sur cette
tablette, il y avait des tablettes qui étaient des dictionnaires, en fait. Hein, des traductions de... des lexiques avec le sumérien et la langue des Blas. Mais oui, bien sûr. Et donc, faisons-nous un nom. C'est-à-dire, ça c'est le régime de la propagande. De peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Or, la dispersion est un bien. Il y a une certaine unité qui est bonne, quand cette unité, hein, c'est le respect des différences, de l'étranger notamment. Vous aurez tout le temps ça dans le Deutéronome, hein, ça revient tout le temps. L'attention aux petits, aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger qui habite chez toi, qui habite en tes murs. Et le Seigneur dit, et de fait, comme la plupart du temps, les réactions de Dieu, hein, on dirait qu'elles sont, d'une part, hein, on dirait qu'elles sont jalouses, et est-ce bien ça que le Seigneur veut dire ? Est-ce que l'image que nous avons du Seigneur, l'image d'un Dieu jaloux qui voudrait empêcher cette unité, est-ce que c'est vraiment une concurrence pour lui ? Est-ce que Dieu peut être un peu... répondre à cette figure, à cette image-là. Voilà la question qui se pose. À nous de voir. Quelle image nous faisons-nous de Dieu ? Et il dit, le Seigneur, ce sont des hommes qui écrivent ça, bien entendu. Voici, peuple unique, élève unique, pour eux tous, et ceci est le début de leur entreprise, maintenant ils vont faire n'importe quoi. Ils vont se mettre en évidence, eux. Descendons, confondons-là leurs lèvres, leur langue, qu'ils n'entendent pas, hein, chacun la lèvre de son prochain. Que chacun puisse garder et puisse découvrir sa propre particularité. Et il les dispersa, le Seigneur, de là sur la face de toute la terre. Mais c'est l'histoire. En fait, les gens se sont dispersés et ont quitté le régime babylonien. Et le régime babylonien a fini par tomber. C'est Cyrus qui est arrivé à Babylone et il l'a prise sans coup férir. Et il cessèrent de construire la ville. C'est pourquoi il appela c'est Dieu, le sujet. Son nom, Babel, car il confondit le Seigneur, la lèvre de toute la terre, et de là il les dispersa sur la face de toute la terre. Et maintenant je prends le texte des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble, tiens, tous ensemble, dans un même lieu. Là, ils sont dans un même lieu. Nous avons une situation qui est un peu semblable. Hein? Tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui emplit toute la maison où ils se tenaient. Là, évidemment, c'est une référence à la théophanie du Sinaï. Ils firent apparaître des langues. On voit maintenant pourquoi les langues. Qu'on eût dites de feu. Langue de feu, le feu désignant la présence de Dieu. Elles se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Combien y en avait-il au départ pour qu'elles se partagent? On n'a pas dit ça, hein? Il y avait des langues et elles se partageaient. Drôle de manière de s'exprimer. Mais donc, il y a une sorte d'unité qui se partage, qui se divise, qui se distingue. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Qui? Ils étaient tous ensemble. Qui sont ces douze ensemble? Est-ce que ce sont les douze apôtres? Ou bien est-ce que ce sont les 120 personnes, hein, dont on nous parle au verset 15? Ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et Pierre s'adresse à eux. 12, c'est la communauté type. 12 fois 10, c'est vraiment la société type. 10 étant le chiffre qu'il faut pour faire la prière du matin, le minyan. 10 doigts de la main. Elles se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous dans un même lieu, tous, furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler dans d'autres langues. C'était l'occasion jamais de dire qu'ils ne parlaient qu'une langue. Eh bien non, d'autres langues. Chacun parle la sienne, dirait-on. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait demeurant à Jérusalem des hommes pieux, littéralement, de toutes les nations qui sont sous le ciel, de nouveau, toutes les nations. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla, quelle multitude, la foule, semble sans doute, et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. C'est pas tout à fait langue qu'il utilise ici, c'est un autre mot. Chacun les entendait parler en son propre idiome, donc dans sa particularité. Ils étaient stupéfaits et tous étonnés. Ils disaient, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthe, Mède, Élamite, habitants de Mésopotamie, vous voyez, on part de l'Est et on va vers l'Ouest, en passant un peu par le Nord, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, on est remonté vers le Nord, de Phrygie et de Pamphylie, on est en Turquie, d'Égypte, on traverse la mer, Méditerranée, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène. Romains, en résidence, tant juifs, que prosélytes, crétois, habitants des îles, et arabes, habitants du désert. Et vraisemblablement, dans crétois et arabes, il y a comme une sorte de sommarisation, de résumé. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Un nom qui ne vient pas de nous, mais un nom qui vient de Dieu, ce sont les merveilles de Dieu qui vont s'exprimer. Et dans des langues différentes. Il ne faut pas nécessairement parler une seule langue, par exemple l'anglais. Il ne faut pas nécessairement que tous soient branchés sur Internet pour faire l'unité. L'unité peut se faire dans la diversité. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela? Voilà une question qui ressemble à celle que l'on posait à Jean-Baptiste lors de sa première prédication au bord du Jourdain. D'autres encore disaient en se moquant, donc ils ont déjà fait leur... ils ont déjà jugé la question, ils sont pleins de vin doux. Qu'est-ce qu'on demande?
En quelle langue?
En quelle langue?
En français, bien sûr.
Ah. Voilà donc le dernier texte où nous sommes arrivés. Alors, qu'est-ce que ces 11 chapitres finalement veulent dire? De quoi ça cause? Bon, en image de commencement, nous avons d'abord l'univers qui est un parce qu'il vient de Dieu, la création entière. Nous avons la réalité de l'homme et de la femme et des relations, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Nous avons la réalité entre frères, leurs relations, ce qui devrait marcher et qui ne marche pas. Puis nous avons l'histoire des générations, hein, la famille de la souche familiale qui est distincte de la majorité des gens qui sont tous mauvais, comme le dit le texte, et qui échappe à la destruction totale, destruction qu'ils ont eux-mêmes mis en route. Et puis finalement, nous avons une dispersion de l'humanité sur toute la Terre. Et cette dispersion semble être le signe d'une présence divine. Donc, comme je vous le disais au départ, le monde, d'où vient-il? Est-il l'effet du hasard? Est-il l'effet de... d'un Big Bang? Comment la création est-elle présente dans la réalité que nous vivons? Comment elle rythme les temps de l'homme, les 7 jours de la semaine? Dans la relation entre homme et femme, il y a des problèmes qui se posent. Lorsque, au lieu de chercher la communion, on cherche ce qui est convoitable pour acquérir finalement l'entendement, on met une source de division au lieu de la communion, et cependant, Dieu en tire quelque chose de bon. Il dit que c'était bon, il dit que l'inimitié entre la race du serpent et la race de la femme n'est pas définitive. Il y aura une victoire. La victoire de la femme sur le serpent. L'histoire de Caïn et Abel se termine. Bien sûr qu'il y a un mort, mais elle se termine par un signe mis sur Caïn pour que le premier venu ne le tue point. Et de même que Dieu protégeait Adam et Ève sortant du paradis, de même, il protège Caïn sortant dans la campagne, errant par le monde. Troisième texte, c'est aussi un texte de salut. On échappe au déluge, à la destruction universelle. Et de cette race de Noé, de cette famille de Noé qui est sortie de l'arche, sort toute à travers une suite d'engendrements, c'est-à-dire de vie qui se propage, sort un peuplement de la terre. Et l'histoire de Babel nous montre que Dieu a un projet aussi dans ce, comment dire, cette dispersion des hommes sur la face de la terre. Où est le positif? Il y avait un positif dans chacun des récits. Il y avait un positif. Où est le positif ici? Est-ce qu'il est dans la dispersion? On ne le sait pas encore. Il faudra qu'on le découvre. Et à partir du chapitre 12, on va voir comment Dieu chemine avec Abraham. Et on a remarqué, plusieurs ont remarqué, plusieurs exégètes, déjà dans l'ancien temps, ont remarqué que le chapitre 11 et le début du chapitre 11 que nous venons de lire et le début du chapitre 12 sont construits sur le même patron. Ce qui veut probablement dire qu'il ne faut pas trop séparer le chapitre 11 du chapitre 12. Effectivement, il va s'agir des mêmes personnages. On termine le chapitre 11 en nous disant la dispersion des hommes. Terach prit son fils Abraham, il part d'où en Galdée, là, hein, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme d'Abraham. Il les fit sortir d'Ur des Chaldéens, donc l'endroit d'où est née toute cette civilisation, pour aller au pays de Canaan, c'est-à-dire l'endroit où ils se situent en ce moment-ci, hein, les Hébreux. Mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. La durée de la vie de Terach fut de 205 ans, puis il mourut à Haran. Et puis, si je continue le texte, au chapitre 12, le Seigneur dit à Abraham, toujours le Seigneur dit, le Seigneur dit, le Seigneur dit, nous avons vu depuis le début. Le Seigneur dit à Abraham, quitte. Donc c'est bien un commandement de dispersion, ça. Pas, sort, quitte. Ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Il ne le montre même pas sur la carte. Il dit le pays que je t'indiquerai. Maintenant, en hébreu, je regrette, mais le texte a été écrit en hébreu, et il ne dit pas quitte. Il dit lech lecha, va vers toi. Va vers toi, hors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père. Vous comprenez bien que les rabbins se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut partir pour se trouver? Mais oui, il faut se quitter pour se trouver. Tant que tu es habitué à toi-même, tu ne connais pas toutes tes richesses. Quand tu te quittes, quand tu quittes l'image que tu avais de toi, tu vas découvrir le plus que les autres te donnent. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, autrement dit, coupe le cordon ombilical, pour le pays que je t'indiquerai. Et donc le voilà mis à l'aventure. Je ferai de toi un grand peuple. Il y avait un peuple qui voulait se constituer, lèvres uniques et mots uniques, et Dieu le met, lui donne un bon coup de pied pour l'envoyer promener un peu partout. Et maintenant, je ferai de toi un grand peuple. On vient de dire que Sarai était stérile. Hein. Je te bénirai. Il l'a déjà fait, hein, pour Adam et Ève, pour Noé. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Ah, sois toi-même une bénédiction. Donc voilà que la bénédiction de Dieu repose en quelque sorte sur ce personnage d'Abraham. Abraham, Avram veut dire le père élevé, le grand cheikh. Avram. Je magnifierai ton nom. Ce n'est pas nous qui allons nous faire un nom. Je magnifierai ton nom, soit une bénédiction, ou qu'il soit ton nom une bénédiction. Et puis il y a ceci qui est comme un petit refrain ancien, parce que c'est en vers. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans ou toutes les familles. Le terme mishpacha peut signifier clan ou famille, tous les clans de la terre. Donc voilà une universalité. Cette universalité repose en quelque sorte sur un personnage qui est bénédiction et qui s'appelle Abraham. Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur. Noé fit ce que lui avait dit le Seigneur quand il construit l'arche. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan, mais c'est un pays maudit, ça. Maudit soit Canaan. Oui, pourquoi il est maudit, hein? C'est le pays des Cananéens, des idolâtres. Ceux qui s'enivrent et qui se dévoilent dans leur bacchanal. Vous voyez ce qu'il y a derrière le petit texte de Noé, là, derrière. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé, le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, un haut lieu, vraisemblablement, un lieu qui avait déjà été, comme on l'appelle en termes d'histoire des religions, cosmisé. C'est-à-dire qu'on avait déjà consacré à des dieux, jusqu'au lieu saint de Sichem, au chêne de Moré. Généralement, les hauts lieux se trouvaient près d'un arbre, le chêne ou le térébinthe. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc c'est un étranger qui vient dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit: tiens, maintenant il se fit voir. Jusqu'ici, il avait dit. Maintenant, il apparut à Abraham et il dit. C'est curieux, hein? Dieu se manifeste à Abraham dans un pays hostile, en quelque sorte, dans un pays idolâtre, en Canaan. Le Seigneur apparut à Abraham et dit: c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Il n'en a pas de postérité, sa femme est stérile. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur, comme l'avait fait Noé. Il bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Et là, nous allons avoir un leitmotiv. Quand Dieu apparaît à un des patriarches, on construit un autel. L'autel étant la commémoration de l'endroit où Dieu apparaît. Il passa de là dans la montagne à l'orient de Bethel, et il y dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Aï signifie la ruine, Bethel signifie maison de Dieu. C'est pas tellement loin de Jéricho, hein, c'est dans les montagnes d'Éphraïm, là. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua son nom. Vous avez déjà vu ça, hein? Ce n'est pas la première fois qu'on invoque le nom du Seigneur. Puis de campement en campement, Abraham alla au Négev. Voilà donc Abraham qui est pris d'Ur en Chaldée, qui reçoit un nom de Dieu, qui reçoit une bénédiction tout à fait particulière, et puis le voilà qui, avec sa famille. Et puis le voilà qui s'en va. Il va remplir le pays. Et où va-t-il? Dans un pays idolâtre. Et Dieu lui apparaît là, au milieu de l'idolâtrie. Et c'est vrai que nous avons là quelque chose qui rappelle l'histoire de Noé dans un contexte tout à fait différent. Je vais encore vous lire, et puis nous...
Et le
prêt
Abraham,
c'est
Salomon.
Oui, dans un certain sens, c'est vrai. Ces textes viennent, ont été repris, en tout cas, ont été repris à l'époque de Salomon. Et le personnage est encore présent. Mais avant cela, je vous lis ce que André Ménin donne comme conclusion à ce texte de la Tour de Babel. Faire parler le Seigneur dans un récit tel que celui-ci, le remarque vrai aussi pour les récits de l'Éden comme pour ceux de Caïn et pour bien d'autres, c'est pour le narrateur une manière de dire sa foi. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est la manière dont le narrateur se représente que Dieu parle. Et si des générations de croyants ont repris et relu ces histoires, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ces croyants ont trouvé dans cette manière de parler de Dieu une source d'inspiration et un lieu de croissance pour leur foi. Ainsi donc, pour le croyant qui a composé l'histoire de Babel, et pour ceux et celles qui reçoivent son récit, Dieu ne cautionne pas des projets totalitaires, parce que l'uniformité qu'il vise se révèle mortifère, meurtrière. L'uniformité est grave, exclue, réduit au silence. Elle fait mourir. Et c'est en cela qu'elle est incompatible avec le projet du Dieu de la Bible. Vous aurez remarqué que chaque fois qu'il y avait meurtre, ou invitation au meurtre, ou en tout cas projet meurtrier, Dieu intervenait. Et que le projet de Dieu à travers tout, projet qui est encore explicité par les engendrements successifs, c'est bien la vie. Mais on vous dit toujours, il vécut, il